Bien, bonsoir à tous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Mermaz pour la parution de ses mémoires, donc, que vous avez pu voir. Il faut que je vous dise. Donc, Louis Mermaz, qui est un personnage considérable de la Ve République et puis du Parti Socialiste. Vous avez un curriculum vitae qui est aussi dense que vos mémoires, si on peut dire. Donc, je ne vais pas citer tous vos titres. Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est que vous avez été le premier président de l'Assemblée nationale de gauche, hein, puisque vous avez été élu au perchoir sous la Ve République, effectivement. Donc, après l'élection de François Mitterrand, donc vous avez été pendant 30 ans maire de Vienne, président du Conseil général de l'Isère, député, sénateur, plusieurs fois ministre. Donc, voilà, on peut...
Le cumul des mandats, quoi.
Voilà, on peut dire que là...
On en parlera peut-être.
Oui, on en parlera. Donc, ce sont des mémoires politiques que vous avez rédigées, donc depuis votre engagement auprès de François Mitterrand. Ce sont aussi, on en parlera... également, ce sont aussi des mémoires personnelles qui sont souvent marquées par beaucoup d'émotions quand vous évoquez la disparition de vos deux garçons. Donc voilà, on parlera aussi de ça justement. Vous avez voulu, sans doute évidemment, mêler à la fois votre vie personnelle à votre vie politique. On en parlera. On va essayer de ne pas détailler trop le livre. De toute façon, c'est ce que je vous disais en préambule, pour détailler votre livre qui fait 700 pages écrit serré. Là, on y est jusqu'à minuit. Donc, voilà, je voudrais juste qu'on ait un peu une conversation. Je vais commencer d'abord, par une question de journaliste, parce que je profite de votre présence. On va un peu parler de l'actualité. Quel est, vous, votre regard avec votre passé de militant, d'élu et de personnalité socialiste sur ce qui se passe actuellement, sur la situation gouvernementale? Est-ce que c'est désespéré? Est-ce que c'est grave?
Non, ce n'est pas désespéré. Si vous faites allusion au dernier développement pittoresque, entre guillemets, je dirais qu'aujourd'hui, si un ministre apprend la moindre chose en lisant le journal, il sera suspect. Bon, alors attention. Non, mais je crois qu'il faut voir les choses de haut. Nous sommes, ça c'est beaucoup plus important, dans un système capitaliste mondial qui prend tous les gouvernements de la Terre à la gorge. Regardez la difficulté qu'a Obama pour bouger les choses et pour faire un petit système de protection sociale qui ne concerne que les gens qui payent l'impôt sur leurs revenus, c'est-à-dire pas à l'ensemble du peuple américain, où les hôpitaux sont souvent des mouroirs. Donc on est aujourd'hui dans un système capitaliste infernal. Alors on dit pudiquement capitalisme financier. J'en ai terminé sur cette question pour dire que dans l'épilogue, revenant à mon métier d'historien, je fais cette réflexion. Si on avait dit aux Athéniens, 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'on pouvait avoir une économie sans esclaves, on serait passé à l'époque pour des hurluberlus. Et si vous dites aujourd'hui aux sachants, aux grands savants qui commentent l'activité économique et boursière, que ça ne peut pas être différent de ce qu'on vit, ils seront aussi choqués que les grands savants du monde athénien. Donc les socialistes doivent garder une vue à très long terme. Bien sûr qu'on est pris à la gorge. Même François Mitterrand, en 82-83, a subi le tournant qu'on sait. Et Hollande est en plein dedans. Mais il faut garder une vision à plus long terme, sinon on désespère non seulement le peuple de gauche, mais l'ensemble du peuple, le peuple tout entier.
Mais alors vous quand même qui avez été ministre, donc qui avez participé à plusieurs gouvernements, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette équipe, et il y a de nombreux élus socialistes qui eux-mêmes le disent, qu'ils en ont un peu marre des nombreux couacs qui se manifestent depuis la constitution du gouvernement Ayrault? On a l'impression que ce gouvernement n'arrive pas à communiquer sur son action.
Je m'attendais surtout à ce qu'on parle de mes mémoires.
Mais
on va poser une question sur l'actualité politique.
Mais c'est parce que je ne veux pas trop détailler le livre pour que les gens le lisent ensuite.
C'est une très bonne idée.
Voilà.
Je ne me déroberai pas, cher monsieur Claude Lasserre, à votre question, sinon pour dire que vous n'imaginez pas qu'à quelques jours des élections municipales, je vais me mettre à critiquer les miens. Non, enfin, je ne suis pas devenu fou.
Non.
Donc la première vertu pour un socialiste, c'est la solidarité. Bon, bah écoutez, là aussi, il ne faut pas confondre les remous. Il y a toujours eu des périodes comme ça, même au temps de la gouverne de François Mitterrand, il y a eu des choses. Quelqu'un que j'estime, Chevènement, a souvent rué dans les brancards, et je pourrais en citer d'autres. Bon, là, il se passe ceci et cela, mais encore une fois, quelqu'un dont je ne partage pas du tout les idées, qui est du lointain sud-ouest, Madame Elio-Marie, je lisais ça dans le Figaro ce matin, oui, je lis tous les journaux en venant ici, disait que ce qu'importe les gens, c'est l'emploi, c'est le chômage, et c'est pas tout ce cinéma qu'on peut nous faire à Paris, avec une grande responsabilité de la presse qui s'en nourrit. Car vous, les journalistes, vous préférez commenter les trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme on dit, que les trains qui sont à l'heure.
Oui, encore que.
Vous n'inventez pas les événements.
Encore qu'aujourd'hui, c'est plus rare les trains qui arrivent à l'heure que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais ça, c'est
et
une autre. C'est
celui
une autre
d'aujourd'hui
chose.
Était à l'heure.
Bon, alors parfait. Bon, alors.
Venant de Paris.
Venons-en à votre livre et à vos mémoires. Est-ce qu'on peut dire que, j'allais dire, le grand homme de votre vie politique, ça reste François Mitterrand?
Oui. Oui, bien sûr, mais enfin, ceci dit, je reconnais qu'il y a eu des grands hommes, comme vous dites, c'est une expression un peu consacrée. Je sais bien que pas loin d'ici, il y a une galerie des grands hommes qu'on traverse pour venir à l'Ebrahim Mola. Mais il y a trois personnages qui ont dominé, disons, le siècle dernier, quatre si vous voulez. On peut dire Clémenceau, qui a été formidable dans la guerre, moins bon dans la paix, le général de Gaulle, Mendès France et François Mitterrand. Voilà les quatre héros, à mon sens, de cette période du XXe siècle. Donc Mitterrand est un de ceux-là, bien sûr, mais il n'est pas le seul.
D'accord. Alors, vous avez dit, vous avez souvent eu des conversations avec lui. Vous racontez notamment votre entrevue avenue Frédéric Leplay, quand vous l'avez vu quelques jours avant sa mort. Est-ce que vous diriez que vous étiez un de ses proches? Vous le dites vous-même, parfois il fallait du courage pour s'opposer à Mitterrand. Vous étiez un des rares qui puissiez lui dire des choses qui n'allait pas forcément dans sa direction.
Un des rares en était quelques-uns. Son ami de jeunesse, Georges Dayan, qui malheureusement est mort avant notre victoire de 1981, souvent s'amusait à le contredire. Il avait des anecdotes assez drôles. Il avait dit un jour, et il le racontait devant François Mitterrand, il nous racontait l'histoire suivante, c'était autant de la période gaulliste, début de la Ve République, et quand Mitterrand était avec lui dans un taxi, il disait à Dayan, parlons pas trop fort, parce que on est écouté par le chauffeur de taxi, excusez-moi, on est écouté soit par les renseignements généraux, donc le gouvernement, soit par les communistes, la CGT. Alors ne dis rien.
Et il n'y avait pas Patrick Buisson à l'époque.
Non,
déjà.
Et un jour que François Mitterrand entend Dayan lui dire, je crois qu'aujourd'hui il va faire beau, Mitterrand dit, tais-toi. Ça, c'était une plaisanterie de Dayan, bon, bien entendu. Mais sinon. Nous étions quand même un certain nombre à lui parler. Pierre Joxe et moi. C'était très curieux parce qu'il y a deux choses qui lui plaisaient. C'était à la fois des gens qui pouvaient le contredire courtoisement. Ça se passait parfois un peu de façon rugueuse. J'entends un jour qu'il me dit « Dites que je suis fou ». J'étais dans son bureau à l'Élysée. Bon, puis on continue. Puis au moment de m'en aller, il dit « Mais écoutez, qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?» Puis la conversation repart. Bon, il était comme ça. Mais il aimait aussi les gens qui étaient très flatteurs. Je ne citerai pas de nom, mais il y avait quelques ministres ou des militants. Même quand il avait fait un moins bon discours un jour que l'autre, on n'est pas toujours meilleur que soi-même. Président, vous avez été formidable. Ben, il aimait assez ça. Il aimait les deux, quoi. Un peu la brosse à reluire, puis un peu la brosse à étrier. Oui. Il aimait les deux. Mais enfin, surtout, il était maître de lui. Et puis, il savait composer son personnage.
Oui.
Il jouait aussi de son personnage. Mais ce que je peux dire, c'est que plus le temps est passé, plus il s'est humanisé. Moi, quand je l'ai connu, j'étais étudiant dans les années 50, je suis allé à une conférence de presse qu'il faisait aux frontières de l'Union française, c'était près de la cité universitaire de Paris, où je suis allé avec un étudiant marocain, on avait l'impression de la statue du commandeur.
Oui, on a l'impression, quand vous racontez, cette rencontre, que... alors, je ne sais pas si je peux user du mot fascination, mais le personnage vous a attiré d'entrée. Vous racontez un peu les rencontres que vous avez faites.
Deux choses. Moi, si je suis allé vers lui, c'est sur un projet politique. Mmh. Ce que j'appréciais, car j'avais vécu dans ma jeunesse, c'était l'école gratuite laïque obligatoire qui glorifiait Jules Ferry, mais Jules Ferry, c'était celui, un de ceux qui avait construit l'Empire. Bon, c'est un colonisateur, on dirait aujourd'hui. Bon, mais moi, je vivais dans l'idée de la France qui avait un empire. Et l'Algérie, dans mon enfance, c'était la chair de notre chair. Et Mitterrand avait une vision, à la différence de beaucoup d'autres, de transformer cet ensemble en une fédération de peuples librement associés. Et dans son livre « Aux frontières de l'Union française », il dit « Il faut construire une France, tenez-vous bien, des Ardennes au Congo ». Et quand je rencontre bien des années plus tard Boumédienne, en 75, c'était sous le septennat de Giscard d'Estaing, j'entends encore Boumédienne qui me dit « Mais monsieur Mermaz, au début, je l'appelais monsieur le président, je ne l'ai jamais appelé monsieur Boumédienne, j'étais simple président du conseil général et il me donnait du monsieur le président et... » Au bout d'un moment, ça c'est très sympathique, c'est exagéré, il me dit « Monsieur Mermaz ». Il dit « Monsieur Mermaz, vous avez voulu faire la France de Dunkerque à Tamanrasset. Ben, il faut que vous compreniez que mes compatriotes, ils veulent circuler librement maintenant de Dunkerque à Tamanrasset. » Et c'était pas mal vu. Mmh. Bon. Donc Mitterrand avait cette vision. Et puis après, il a eu cette vision de construire une Europe. Une fédération européenne. Une fédération des peuples, on disait, pas seulement une fédération des capitaux et des marchands. Il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie pour une Europe puissance politique. Donc c'est cette vision qui m'avait attiré vers lui, et puis qu'après, par la vie humaine, l'affection soit venue, c'est évident. Mais je veux dire, il n'y a rien qui m'irritait plus que quand je lisais dans la presse que j'étais le fidèle des fidèles. Je n'étais pas le fidèle en chèque en blanc. Et s'il avait changé de politique complètement, bon, j'aurais eu toujours du respect pour lui, mais je m'en serais séparé. Je n'étais pas une espèce d'admirateur béat et stupide. Donc c'était sur une base politique, c'est évident.
D'accord. Alors... Vous, votre parcours, sans remonter jusqu'à votre enfance, mais le fait que vous soyez un homme de gauche, vous l'expliquez comment ? Par votre parcours personnel, par votre éducation, comment s'est forgé votre...
Le hasard de la vie fait que mon père, Louis de Chapdelaine, dont je ne porte pas le nom, je l'explique dans le livre... a été l'homme de gauche des Côtes d'Armor. D'ailleurs, je vais bientôt aller à Dinan et il paraît qu'on m'attend. Bon, c'est une bonne idée. Bien, il était la gauche radicale, un petit peu ce qu'était l'UDSR au temps de la 4e République. Et d'ailleurs, sa circonscription a été celle de Charles Josselin, que Christian Lorisergue a connu. Et aujourd'hui, c'est une députée socialiste, Viviane Le Dissès, qui est députée de cette circonscription. Donc, par lui, je me suis tout de suite retrouvé dans la politique. Et alors, lui, c'était assez étonnant parce que, de ce côté-là, j'ai été d'une famille par le sang qui remontait à l'aristocratie, car ces Bretons-là, il était le seul républicain. Les autres, ils regrettaient encore la monarchie, c'est fou. Et on servait la France dans l'armée, dans la marine. Ah oui, il a eu plusieurs ancêtres qui étaient des marins, etc. Mais on ne faisait pas de politique. Alors lui, il était à part par rapport aux autres. Il avait rompu avec cette tradition de vieille chouannerie. Et de l'autre côté, j'ai une ascendance ouvrière. Puisque j'ai un arrière-grand-père qui était tailleur de pierre, Annecy. Donc, vous voyez, la rencontre de deux mondes complètement différents, ce qui est assez excitant, d'ailleurs, politiquement et humainement.
Oui. Et alors, donc, c'est ça qui vous a plutôt... c'est quoi ? C'est le... Comment on dit qu'on devient de gauche parce qu'on veut se battre contre l'injustice, contre le... Qu'est-ce qui vous a...
Ce qui m'a, indépendamment de cette ascendance paternelle, ce qui m'a attiré vers la gauche, c'est cet attachement que j'avais à l'idée d'empire, la Grande France. D'ailleurs, pendant l'occupation, moi, j'étais un admirateur de Napoléon. Je le suis moins aujourd'hui. Jospin vient de faire un très beau livre, oui. Napoléon, le malheur français.
Il sera bientôt chez Mola, d'ailleurs.
Oui, il sort. Bah, oui, c'est, d'après le compte-rendu du Monde, il y a 24 heures, c'est un bouquin qui est remarquable. Il est en vente, ça y est. Bon. Donc Jospin, il dit Napoléon, c'est le mal français. Et Mitterrand, un jour que j'avais fait un discours glorifiant Napoléon à la fin d'une distribution des prix au lycée Dumont, dernière distribution des prix où on faisait encore des discours, j'avais fait plutôt l'éloge de Napoléon. Il me dit, mais enfin Napoléon, quand même, vous exagérez, il a laissé la France plus petite qu'il l'avait connue, c'est vrai. Mais ce Napoléon, pendant l'occupation, c'était une revanche posthume pour nous. Moi, je me souviens d'avoir été très choqué quand Laurie Hitler a fait que le duc de Reichstadt, l'Aiglon, a été transporté, les cendres de l'Aiglon étaient transférées aux Invalides à Paris. C'est immonde que ce soit Hitler qui fait ça. Donc c'était pour nous une revanche, Napoléon. Donc moi je vivais dans cette idée de la grande France, de la grande nation. Et pourquoi j'étais de gauche ? Parce que j'ai très bien tout de suite compris, mais bien avant de connaître Mitterrand, mais dès le lycée, je faisais des papiers... en 1946, dans un canard local dans l'Orne, le Réveil Normand, j'avais très bien compris que la seule façon de garder l'Empire, c'était de libérer les gens de la tutelle coloniale. On serait encore en Algérie ou on serait dans une association étroite avec l'Algérie si les grands propriétaires, les borgeois, etc., qui manipulaient les populations d'origine européenne, n'avaient pas fait que ce pays n'appartenait à la République française que de façon tout à fait formelle. liberté, égalité, fraternité, c'était au fronton de toutes les mairies en Algérie à l'époque. Moi, j'y suis allé faire une colonie de vacances en 1952 à Tipaza, 2 ans avant le début de la guerre. Ben, je vous assure qu'on voyait bien qu'il y avait 2 sortes de Français. Il y avait les Français de souche européenne, oui. Il y avait des Français de Bavelouette qui votaient communistes. Donc ils étaient traités comme des citoyens français, mais très peu de gens d'origine arabe étaient... Il y avait 2 collèges. Bon, donc moi j'étais contre tout cela. C'est comme ça que j'ai commencé à être de gauche. Puis après tout le reste est venu...
Donc en fait, c'est par le prisme de l'histoire, puisque vous êtes historien de formation, que vous en êtes arrivé à la politique finalement.
Les deux.
Oui.
Non, les deux. Je ne veux pas me vanter, mais je rencontre en moyenne un ancien élève tous les ans, de moins en moins évidemment. La dernière fois que je suis allé au lycée du Mans, où j'enseignais 2 ans, je constatais que tous mes élèves étaient à la retraite. Moi, j'étais encore au Sénat pour 2 ans. Ils étaient tous à la retraite, ça fait un drôle d'effet. Et alors là, je vais avoir l'air d'un pan qui se vante. Ils me disent toujours, vous êtes le meilleur professeur d'histoire qu'on ait eu. Pourquoi ? Parce que j'étais dans la politique. Et l'histoire, pour moi, ce n'était pas un truc livresque. Donc, je vivais l'histoire. J'avais l'impression qu'ils étaient déjà un peu comme ceux que je fréquentais, quoi. J'étais à l'UDSR, j'étais avec Mitterrand depuis 1955, je faisais des articles de journaux depuis 1946. Donc la politique, c'était l'histoire, pour moi, c'était la même chose.
Et pour l'anecdote, vous avez eu comme élève Thierry Leluron également.
Oui, j'ai eu Thierry Leluron comme élève.
Est-ce qu'il vous imitait ?
Mais si on raconte tout, ils ne vont plus acheter le livre.
Non, mais c'est juste une ligne, ça, Thierry Leluron. Donc on peut,
bah, Thierry Leluron, c'est très drôle, j'ai eu Thierry Leluron comme élève. D'ailleurs, il s'appelait Thierry Leluron, j'ai longtemps cru que c'était un nom d'artiste, enfin un nom de caricaturiste. Et un jour, j'étais président de l'Assemblée, je suis invité pour dire 3 mots à 18h à Europe numéro 1. Et je ne sais pas pourquoi, ils avaient imaginé de ne pas me faire rencontrer Coluche qui est habillé en marié et Leluron en frac de marié. Et alors ils me font passer par un escalier en colimaçon pour pas que je tombe dessus, mais manque de chance, c'est Coluche et Leluron descendent par là. Et Leluron me dit « Ah, monsieur Mermaz, vous avez été mon prof au lycée Lacanal. » Voilà, c'est comme ça que je l'ai su. J'avais oublié de tirer Leluron.
Alors, votre premier mandat, c'est quoi ? Quand est-ce que vous mettez le pied, j'allais dire, dans la politique, que vous devenez, que vous entamez votre longue carrière
de... Non, je me suis d'abord fait battu 3 fois dans l'Orne.
Non.
Et j'ai rencontré un jour un personnage très savant qui s'appelle Lancelot, qui a terminé au Conseil constitutionnel et qui longtemps a dirigé un institut de sondage avant de ses fonctions, voilà, et qui m'a dit, mais enfin, Mermaz, je ne comprends pas, vous me disiez, monsieur Mermaz, j'en sais rien, je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous a pris, vous, un homme de gauche, d'aller vous présenter dans l'Orne. Je lui ai dit, écoutez, il n'y avait pas besoin de sondage pour savoir que l'Orne votait plutôt à droite. Mais, en 81, Michel Lambert a été élu député socialiste de Flers de l'Orne. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui a arrangé un peu les choses, c'est qu'il y a des professeurs dans l'enseignement privé. Donc, candidat socialiste, mais professeur d'un établissement privé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'air tout rouge, quoi. Il n'avait pas l'air d'un bouffeur de curé. Donc, ça a dû aider son élection. Mais enfin, quand même, un socialiste élu, ce n'était pas évident.
Et alors, après, donc vous avez, votre cursus électoral s'est poursuivi dans l'Isère, hein, on l'a dit. Pourquoi êtes-vous parti là-bas ?
D'abord, je suis allé dans la Nièvre pour débloquer Mitterrand, parce qu'il était attaqué à Château-Chinon quelques mois avant des candidats de l'Union de la Gauche. Il avait non seulement contre lui une liste de droite, ce qui était normal, mais une liste socialiste et communiste contre lui. Alors, il m'a dit, bon, on va contre-attaquer à Nevers. Alors, on a contre-attaqué à Nevers, on n'a pas été élu, mais ça a quand même bougé beaucoup les choses. Et lui, il est passé au premier tour à Château-Chinon, ce qui était tout à fait contraire à la mathématique, parce que mathématiquement, il était ratiboisé. Vous vous rendez compte, il avait contre lui la droite, contre lui les socialistes et ses fios, c'était avant Épinay, la droite, les socialistes et ses fios et les communistes. Ben, il a été élu sur son nom, quoi.
Bon. Comme quoi, mathématiques et politique, ça rime pas toujours.
Absolument. Ouais. Moi, j'ai mon dernier suppléant qui a été élu député, la dernière fois en 2012 à Vienne, si on faisait les comptes, il était battu après le premier tour.
Ouais.
Et il a gagné. C'est un personnage assez étonnant, Erwan Binet. Il est le rapporteur, il a été le rapporteur du mariage pour tous. Et c'est un catholique pratiquant. 5 enfants chez les scouts, enfin, etc. L'église catholique à Vienne ne le persécute pas du tout. Bon, comme quoi les choses bougent. Bon, alors moi, je suis parachuté dans l'Isère. Le fait de porter un nom savoyard, ça faisait un peu déjà Rhône-Alpin. Il y a des Savoyards qui sont descendus jusqu'à Vienne, au bord du Rhône. J'ai battu un très sympathique député centriste, Chapuis, qui d'ailleurs m'a fait qu'un reproche, il m'a dit, mais Mermaz, vous arrivez à Vienne, vous ne savez même pas où c'était il y a quelques jours. J'ai dit, écoutez, j'enseigne la géographie, je savais quand même que c'était à peu près au sud de Lyon. Bon, très bien. Alors Mitterrand me présente d'une façon, il faut bien un peu dire des choses drôles, je ne vais pas vous faire un cours de politique, Mitterrand me présente à Vienne d'une façon un peu drôle, et les vieux viennois s'en souviennent encore. J'avais 35 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de députés qui ont 35 ans, mais à l'époque, en 67, ça faisait un peu jeune. Il dit, écoutez, vous trouvez Mermaz jeune? À son âge, Danton avait déjà été guillotiné. Ça, les gens s'en souviennent. Ça, c'était Mitterrand.
D'accord. Et donc bon, là, c'est donc
faut là... Faut pas être trop sérieux, quand même.
Hein. Parachutage réussi. Et
Ça marche très bien en Isère. Migaud, aujourd'hui premier président de la
Cour des comptes.
Cour des comptes. Bon, son père était notaire à Château-Chinon. Je ne l'ai pas connu par Mitterrand, mais par la faculté de droit de Lyon. Migaud, de Château-Chinon, Dubedou, de Pau.
Oui, c'est vrai.
Non, mais l'Isère est un département où les parachutages ne scandalisent pas les gens.
Oui, d'accord.
Enfin, il y a des départements, bon, en Corse, je ne sais pas si le parachutage est aussi facile.
Peut-être pas. Mais en Gironde, il y a eu des parachutages réussis aussi. Donc,
oui, ça arrive.
Bon. Donc vous entamez donc les législatives, hein, c'est ça. Vous êtes ensuite bon la mairie de Vienne, le conseil général de l'Isère.
Je suis à peine élu donc, que je suis battu. Ouais. 18 mois après les événements de mai.
De mai 68.
Je suis battu de 40 voix. C'est rageant par David Rousset, le seul strokiste gaulliste. Mais là en politique les choses changent. En 74 je le reçois pour l'accueillir dans le comité de soutien de Mitterrand. Alors David Rousset n'a jamais remis les pieds dans sa circonscription, sinon pour faire quelques dîners un peu arrosés avec le sous-préfet de l'époque qui était anti-Pompidou. Bon, et un sous-préfet radical qui avait une dent contre la droite, c'est comme ça, mais il était sous-préfet, sa carrière se terminait. D'ailleurs, quand il a été à Thionville, il a été envahi par les ouvriers de l'usine de Briey, je vois encore l'humanité, on voit mon Rigbuche, le représentant du pouvoir... assailli par les salariés, par les ouvriers. C'est formidable, lui représentant du pouvoir. Alors David Rousset n'est jamais revenu. Un jour, Mitterrand le rencontre, c'était pas le TGV, c'était le Mistral, et il lui dit, Mitterrand connaissait tout le monde, à droite, à gauche, etc. Il lui dit, alors vous êtes encore en train d'aller embêter mon ami Mermaz à Vienne. Oh, Rousset dit, rassurez-vous, David Rousset, je descends dans le midi, je vais jamais à Vienne. Ah bon. Et il a fait un journal, j'arrête là-dessus, en 71, un journal qui a eu qu'un numéro qu'il a fait distribuer, dont le thème général était « La droite viennoise est tellement bête, tant pis pour eux, Mermaz va être élu maire de Vienne ». C'est ce qui s'est produit, par 2000 voix d'avance, qui dans une ville de 30 000, il est formidable. Et David Rousset, comme ça, après m'avoir battu, il a dit aux gens « Allez-y, votez pour lui ». Et en 74, il est dans le comité de soutien de Mitterrand. C'était pas n'importe qui, David Rousset, résistant, déporté, etc., un écrivain...
Oh, mais on a connu, vous en avez connu d'autres revirements quand même, de gens qui...
Ben c'était un trotskiste.
Oui.
Il est un trotskiste qui avait de l'admiration pour De Gaulle. C'était pas contre nature. Il était trotskiste, il s'en est pas caché d'ailleurs.
Non. Alors puisque vous parliez des élections municipales, donc un de vos mandats les plus durables, si je puis dire, donc c'est maire de Vienne, on dit souvent que... Le poste de maire, c'est le plus beau des mandats. Vous diriez la même chose?
Oh, ça, c'est un cliché, on dit ça, surtout en période d'élection municipale. Hein. Ben oui. Bon, c'est un très beau mandat, mais enfin, le mandat de député, c'est intéressant. Bon. Ce qu'il y a, c'est que non, ce qu'il y a de très, très, très passionnant dans le métier de maire, c'est le contact humain perpétuel. Et puis, dans le fond, un travail de maire. On ne perd jamais une minute comme maire. Quoi qu'on fasse, ou bien on parle avec quelqu'un, ben c'est une relation humaine, parfois fraternelle, ou bien on intervient pour quelqu'un, enfin on fait des constructions, enfin bon, vous savez tout ce que un maire fait. On a un résultat. Tandis que quand vous êtes député, ici, Louis Serg pourrait en témoigner comme moi, on va se battre pendant des semaines pour faire passer un amendement, puis finalement il ne passe pas. Donc c'est un travail, alors de temps en temps on a des résultats, mais enfin... C'est quand même un travail passionnant, le métier de parlementaire. Mais alors, le cumul des mandats. Moi, je suis pour le cumul des mandats. Oh, qu'est-ce que je raconte, là? Bon, c'est peut-être la vieille école. Jospin a bien fait de le limiter. On ne peut pas être président de conseil général et régional. On ne peut pas être député européen et député national. On ne peut pas être maire d'une grande ville et président de conseil général. Je comprends d'ailleurs que pour des très grandes villes, je pense à Paris, je pense à Marseille, à Lyon, bon, on pourrait dire peut-être que dans ces villes-là, d'ailleurs Delannoy avait donné l'exemple en quittant le Sénat quand il a été élu maire. Mais ce qui enracine un parlementaire, c'est d'être dans le terrain, d'être avec les gens en contact, etc. C'est pas d'être tout le temps uniquement à Paris, il faut les deux. Mais surtout, disons les choses franchement, depuis la Ve République, bon, la Quatrième est morte d'avoir pas su régler le problème colonial et puis de l'instabilité ministérielle. La Troisième République, c'était pire. Bon. Mais aujourd'hui, on est dans un régime, depuis 58, quasi consulaire. Le peu de temps où j'ai été, enfin si 2 ans quand même, président de groupe, c'est autant du gouvernement Rocard, pour qui j'ai de l'estime, même si on n'avait pas des accords sur tout, je disais au groupe parlementaire, si vous voulez être pris au sérieux, vous, la majorité, il faut au moins renverser un jour le gouvernement si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais c'est impensable, vous n'avez jamais vu depuis la Ve République une majorité renverser son gouvernement. Parce que le président de la République, au bout d'un an, il peut dissoudre. Alors donc, les députés, même s'ils sont maires, etc., ils font très attention. Mais alors, s'ils sont uniquement députés, c'est-à-dire qu'il faudra encore moins contrarier le gouvernement que maintenant, parce que sinon, attention à l'investiture la prochaine fois, il faudra ne pas contrarier le parti pour être investi, il ne faudra pas contrarier la fédération locale pour être investi. C'est-à-dire qu'il faudra se tenir tranquille. Ou alors, il faut modifier profondément la Constitution, il faut que le président de la République ait plus le pouvoir de dissoudre. Sinon, le parlementaire, il ne pèse rien. Aujourd'hui, il pèse un peu parce qu'il a la terre aux pieds. C'est vrai qu'on dit, dans le fond, il est maire ici, c'est lui qui peut gagner législative. Il est député, c'est lui qui peut prendre la mairie. Bon, il y a un ancrage. Mais si vous faites sauter ça, et si le président de la République peut continuer de dissoudre au bout d'un an, le parlementaire, c'est quelqu'un qui, par définition, fait gaffe. C'est humain. On ne va pas reprocher à un député d'avoir envie d'être élu. Il y en a quelques-uns, effectivement. Michel Noir a dit, vaut mieux perdre les élections que perdre son âme. Mais pour lui, ça s'est mal terminé par la suite pour d'autres raisons. Quoi. Oui. Bon, c'est un cas exceptionnel qu'il ait dit ça. Ils ne disent pas ça en général. Un député n'a pas envie d'être battu. Bon, voilà. Alors, je profite de ça pour vous dire que le mandat de maire, c'est le plus beau des maires, c'est le plus beau des métiers, si vous voulez. Mais enfin, il y a aussi d'autres mandats qui sont pas mal. D'être député européen, si on fait bien son travail, maintenant que le Parlement européen commence à avoir des pouvoirs, c'est pas rien.
Les présidents de conseil général, c'est bien aussi?
Oui.
Bon. Oui. Et sénateur aussi. Comme vous avez presque quasiment tout fait.
Oui, sauf d'être président de la République. C'est un jour ce qu'une députée communiste, une sénatrice communiste m'a lancé au Sénat.
Bon, ça, alors justement, ça, je fais une incise par rapport à ça. On va revenir un peu après sur votre. Juste en 95, vous laissez entendre, ou c'est plutôt sa femme qui y pense pour votre femme, pardon, qui y pense pour vous, quand Delors finalement annonce qu'il ne se présentera pas. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas moi? Enfin, votre femme dit, pourquoi pas vous?
Non, pas du tout. Non, c'est, je suis... Ma femme est à Paris. Et je suis à Vienne, dans notre maison à Vienne. Et je regarde l'émission où Delors va dire s'il se présente. Ceux qui l'ont vu s'en souviendront. Il est parfait. Il est même très dur pour la droite. C'est normal. Bon, il fait son combat, tout le monde se dit, il va y aller. Puis brusquement, il chausse ses lunettes, puis il dit, j'ai une déclaration à faire, car c'est important, il est interrogé par Anne Sinclair. Et voilà qu'il explique qu'il ne sera pas candidat, parce que les conditions ne sont pas réunies, il n'aura pas les soutiens qu'il voulait. Les soutiens qu'il voulait, c'était les soutiens centristes. La seule façon de ne pas avoir les soutiens centristes, c'est de les demander. Enfin, tout le monde le sait. Il ne faut surtout jamais toucher aux états-majors centristes. Les électeurs centristes, ils vont souvent venir avec nous. Il faut surtout pas aller voir les chefs, aller négocier avec Le Canuet, avec Bayrou, enfin je peux vous les citer tous depuis qu'il y a des centristes, des MRP dans le temps, c'est perdre toutes les voix à gauche et c'est pas attraper les voix centristes. Mitterrand savait faire, quand Mitterrand mettait une église sur ses affiches, c'était pas la peine qu'il téléphone à Le Canuet, tout le monde avait compris qu'il fermerait pas les églises. Bon, etc. Est-ce que Le Canuet allait tellement à la messe, après tout j'en sais rien. Bon, très bien. Donc, Delors, on est très déçus. Et c'est un militant, c'est là que vous confondez, c'est un militant de l'île d'Abo, Villefontaine exactement, qui fait partie de l'île d'Abo, qui me dit « tu devrais y aller ». Voilà, et je lui dis « ben non ». Et j'ai parfaitement conscience que je ne suis pas en situation d'être candidat à ce moment-là. Est-ce que je l'ai jamais été, j'en sais rien, mais j'ai... ma femme m'a jamais dit tu devrais y aller. Elle a la tête très froide.
J'ai confondu.
Elle a la tête très froide.
Par contre, votre femme avait prévu que Delors n'irait pas.
Oui, et Mitterrand. Alors c'est là que parfois il poussait un peu loin le bouchon. Mitterrand, je téléphone à Mitterrand le soir de cette émission. Je ne vais pas téléphoner souvent quand il est président de la République, peut-être 4-5 fois. Et c'est la raison pour laquelle j'appelais le standard de l'Élysée et dans les minutes qui suivaient, j'étais rappelé. Évidemment, si j'avais appelé tous les dimanches, il aurait dit ça suffit. Mais là, je l'appelle, quelques instants après, 2-3 secondes, il m'appelle. Et alors avec la voix très, oui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui l'ont connu l'entendent, alors il sert, Philippe Dante, oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui dis, vous avez entendu Delors? Ben, il me dit oui. Je dis, il n'est pas candidat. Ben, il dit, parce que vous pensiez qu'il serait candidat? Oui, alors là, il exagérait. Parce que quand avec Roland Dumas, François Loncle, François Hollande, on se réunissait chez Roland Dumas, qui habite dans l'ancien atelier de Paul Claudel.
Camille Claudel.
Camille Claudel, oui. La sœur de Paul, dans l'île de Saint-Louis. Et qu'on faisait des déjeuners avec Delors et tout ça, Mitterrand le savait, et puis il nous poussait à le faire. Et à un moment, il a voulu, mais il a été très furieux qu'il ne soit pas candidat.
Alors, on en parlait un peu en préambule, donc vous avez été le...
Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Delors. Il a fait un travail formidable à la tête de l'Europe, mais comme certains disaient, Delors, pour qu'il accepte le président de la République, il faudrait le nommer.
Voilà, c'est ça. C'est être élu sans faire campagne. Quoi.
Ah non, mais écoutez, au temps de la Convention, je m'occupais des élections. Chaque fois qu'on essayait de lui dégoter une circonscription, il revenait, il disait, non, là, je peux pas. Là, il y a Baboulène qui va se présenter, patron de Témoignages Chrétiens. Là, c'est ceci, cela. Et on a fait finalement réussi à accepter. Il avait accepté d'être maire de Clichy. Près de Paris. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a été nommé président de la Commission européenne où il a fait un très bon travail. Des très bons présidents de commission, Mitterrand, Kohl et lui ont fait avancer l'Europe à cette époque.
Alors, vous avez été pendant 5 ans président de l'Assemblée nationale. On en parlait avant le début de la séance.
Dis donc, on est encore en 86, là.
Non, mais juste... c'est juste parce qu'on ne fait pas chronologiquement. Je voudrais juste que vous évoquiez, justement, 15. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la vie parlementaire, depuis que vous êtes président, entre le moment où vous avez été président de l'Assemblée nationale et maintenant, ça a évolué. On dit que souvent maintenant l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Ah, question délicate. On ne peut pas dire ça parce que... Bon. Il s'agit de la majorité, vous parlez de la majorité, c'est tantôt la majorité droite, tantôt la majorité
de gauche.
Oui,
de n'importe quelle majorité. Oui.
La majorité, parce que quand on est dans l'opposition, on se fait entendre. Mais aujourd'hui, la majorité, il y a quand même des gens qui s'expriment. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est très difficile à des socialistes de renverser un gouvernement socialiste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a des négociations en coulisses. Moi, je me souviens, quand j'étais président de groupe, il y avait des négociations qui étaient parfois très tendues avec Rocard, et puis des négociations très tendues avec Pierre Bérégovoy, car Pierre Bérégovoy, qui a une immense qualité, mais lui, il était très attaché au Francfort, à l'équilibre des finances, etc. Et quand on se bagarrait pour des choses sociales, il n'était pas contre, mais enfin, il tenait les cordons de la bourse. Donc, il y a eu des moments, je le raconte d'ailleurs, il y a eu des moments assez difficiles. Donc, ça se passait comme ça. Ça ne se passait pas à plein jour. Quand ça se passait à plein jour, c'était sous la 3e, la 4e République, et là, les gouvernements tombaient. D'ailleurs, Mitterrand, un jour, a une belle expression. Il a dit pendant la période gaulliste, qui était un peu polémique, mais enfin, pendant la période gaulliste, les gouvernements de la 4e République, dès qu'ils avaient réglé un problème, ils tombaient. Ceux-là, ils parlent de la 5e République, ils demeurent, mais ils ne règlent aucun problème. Bon, c'était un peu exagéré, c'était un peu polémique, mais enfin, on voit ce qu'il voulait dire.
D'accord. Mais... quand même, vous avez le sentiment, vous, donc encore une fois, je dis, vous avez été président de l'Assemblée nationale, que c'était peut-être plus facile à l'époque de présider justement les députés, de se faire respecter, que maintenant on a l'impression. Alors peut-être aussi, c'est
ça,
l'intrusion de la télévision au sein de l'hémicycle.
Très, très dur, Ça a été très, très dur les 2 premières années.
Oui,
j'imagine. 80, 83.
Oui,
l'opposition était déchaînée. Imaginez pas qu'on puisse leur avoir succédé.
Oui.
Les Français non plus, d'ailleurs, puisque dès les élections partielles de février, tenez-vous bien, février 82, on a 5 élections partielles, on perd toutes les 5.
Ouais.
Et Mitterrand dit, mais les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? On était à peine arrivé que ça suivait. Pourtant, il y avait eu les réformes. Il y avait tout un tas de réformes qui étaient apparues, augmentation du SMIC, allocation familiale, toutes les prestations sociales, beaucoup de choses s'étaient mises en marche. Mais les gens attendaient tellement que, bon, très bien. Donc, à cette époque, ça a été très, très dur. Les débats... les débats sur les nationalisations, ça a été des batailles rangées interminables jour et nuit. Et si le congrès de Valence des socialistes a été si rude, c'est que ça tapait dur à l'Assemblée. Pendant le congrès de Valence, l'Assemblée était réunie nuit et jour et discutait de la décentralisation à l'époque. Et alors, à entendre les députés RPR, on démolissait la France. Aujourd'hui, ils sont pour la décentralisation. Ils trouvent ça très bien. Mais ça a été très, très, très dur. Oui. On ne se parlait pas dans les couloirs. Aujourd'hui, entre gauche et droite, beaucoup de parlementaires se tutoient.
À l'époque, non. C'était...
Ah non, non. On se faisait un peu la gueule. Hein.
Oui, oui.
Oui, oui, non, oui. Non. Nous, on considérait écoutez, Jacques Lang, il est très poète quand il dit maintenant le jour se lève, enfin, etc. On a l'impression que.
Oui, on est entré dans la lumière.
Oui, entré dans la lumière, on a l'impression que jusque-là, on était dans les ténèbres absolues. Il faut voir le climat. Mais ça, ce qu'il disait là correspondait. À l'époque, nous aussi, on avait l'impression qu'on avait libéré la France. Bon, des deux côtés, il y avait cette montée chaleureuse.
Oui, tandis que maintenant, l'alternance politique l'alternance est davantage rentrée dans le...
Oui, oui, ouais. Oui. Ça ne fait pas plaisir quand on est battu, mais enfin, ce n'est pas scandaleux.
Oui. Bien, merci Louis Mermaz.
Comme vous êtes sympathique.
Voilà.
Comme vous êtes sympathique.
Voyez.